Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet.
Bonjour. Voilà. Donc, comme je l'avais annoncé la dernière fois, mon dernier cours, c'est pas tout à fait le dernier parce qu'il y aura la leçon de clôture un peu plus tard, je rentre à la maison. Je vais en fait revenir sur le travail que nous avons mené et continuons à mener à Samarcande. Bon, c'est évidemment pas sans rapport avec les sujets que j'ai abordés cette année. J'ai souhaité boucler la boucle. En fait, j'avais commencé mon enseignement il y a 13 ans. En partant de notre travail à Samarcande. On avait fait en 2015 un colloque sur l'irrigation à Samarcande et en Asie centrale, après quoi j'étais parti dans l'archéologie urbaine. Je vais un peu plus rentrer à la campagne. Donc, Samarcande, commençons par le début. Les premiers textes qui nous en parlent sont les sources sur l'expédition d'Alexandre. Mais en fait, ils nous disent rien sur l'environnement agricole de la ville, à part qu'on y stocke du vin. Parce que c'est directement lié à l'histoire d'Alexandre. Ce sont les gros stocks de vin qu'ils ont trouvés entreposés dans le palais qui ont été la cause de la beuverie au cours de laquelle Alexandre a tué Cléitos, ami de son père. Donc on sait qu'il y avait des gros stocks de vin. Samarcande a toujours été célèbre, un peu moins maintenant, hélas, par la viticulture. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout du long. Alors, on a un indice pour l'époque grecque, un indice indirect, de ce que le grand canal qui a toujours alimenté la ville, passant au sud, existait déjà. C'est que le géographe Ptolémée mentionne que Samarcande, Marakanda, que d'ailleurs il situe mal, bon ça c'est un autre problème, est sur un bras de rivière qui s'appelle le Dargomanès. Alors, c'est un nom ancien iranien signifiant « le long ». Le nom est toujours porté par le canal qui alimente Samarcande au sud, qui s'appelle le canal d'Argom. Et la question, évidemment, on a une indication qu'il existe à l'époque grecque, c'est l'époque où ces données ont été transmises, la question est de savoir depuis combien de temps. Et c'était un des objets de notre étude. Alors, la première mention vraiment de la région de Samarcande comme terroir agricole se trouve dans une... Alors, on m'a prévenu que c'était... Ah, voilà, dans une source chinoise, le Souyi. Le Souyi, excusez-moi. Elle se trouve dans une notice sur la région de Souyi, qui est donc une transcription de Samarcande, de Sogdiane. Cette source chinoise, c'est une encyclopédie, un traité administratif, le Tongtian, dont on pense que les données, dans ce cas-là, remontent à la chronique du Weishu, dont les données enregistraient les informations reçues au 5e siècle, lorsque la Chine a retrouvé le contact diplomatique avec l'Asie centrale. Et que lit-on là ? Le pays de Souyi produit de bons chevaux, des bœufs, des moutons et diverses sortes de fruits. Il produit un excellent vin de raisin. Ah ben voilà, nous retrouvons le vin. Vin de raisin, pour les Chinois, c'est important de préciser vin de raisin. C'est pas du vin de... C'est pas du saké, c'est pas du vin de céréales. Car dans ce pays, le sol et l'eau sont excellents. Il y pousse une énorme céréale de plus de 3 mètres de haut. On va se débrouiller avec ça. Ce texte est un peu déroutant parce que c'est pas exactement la manière dont on est accoutumé à décrire l'environnement agricole de Samarcande. On parle surtout donc de l'élevage, et les chevaux. Alors c'est assez déroutant aussi parce que produit beaucoup de bons chevaux. Or la peinture sogdienne, quand elle nous montre des chevaux, notamment des chevaux de combat, ce sont toujours des étalons adultes, jamais de juments. On pense qu'en fait, ils achetaient les poulains, ils n'en élevaient pas, du moins à cette époque, au 7e siècle, peut-être pour économiser la terre agricole, et n'en élevait pas, il les achetait aux voisins, qui pouvaient être soit les Turcs de la steppe, soit des populations de Piémont. Alors, l'énorme céréale de plus de 3 mètres de haut, alors là, on se gratte la tête depuis longtemps pour savoir ce que ça peut être. Bon, la seule céréale qui pourrait vaguement correspondre à cette description, c'est le sorgho. Alors, on n'a pas vraiment d'évidence paléo-botanique sur la culture du sorgho à Samarcande à ce moment-là, mais il est attesté dans les colonies sogdiennes du Semirechye, et donc il n'est pas impossible que le sorgho ait poussé à ce moment-là à Samarcande. Descendons un peu dans le temps. La description suivante, la plus un peu plus détaillée, c'est celle que donne le pèlerin bouddhique chinois Xuanzang qui passe vers 630. Alors, je le lis, le pays de Samarcande, la capitale à plus de 6 km, de 20 lits de tour, 6 km, c'est la vérité. C'est une forteresse inexpugnable avec une nombreuse population. Les denrées précieuses des différentes régions sont surtout rassemblées dans ce pays. Donc là, ici, il enregistre l'émergence de Samarcande comme métropole commerciale. Le sol est riche et fertile et toutes sortes de grains sont cultivés. Les arbres sont luxuriants et donnent à profusion des fleurs et des fruits. Voilà, c'est en continuité avec ce qu'on a lu là-haut. Le pays a beaucoup de bons chevaux, à nouveau les bons chevaux, voilà. Ces habiles artisans sont les meilleurs parmi de nombreux pays. Le climat est doux et tempéré. Et alors, la chronique contemporaine de Tangshu ajoute une information vraiment intéressante. Ils ont des machines fort ingénieuses. Qu'est-ce que c'est que ces machines ? Le plus vraisemblable, c'est qu'il s'agit de machines élévatrices d'eau. C'est des roues et ça enregistrerait l'importance des canaux. Descendons encore un peu. Un texte que j'ai déjà eu l'occasion de citer parce qu'il est très fameux. Au milieu du Xe siècle, le géographe Imho Kral part dans un développement lyrique sur Samarcande. C'est le plus magnifique des pays de Dieu. Du haut de la citadelle, de Samarcande donc, on jouit du plus beau spectacle imaginable. Des arbres verdoyants, des châteaux resplendissants, des ruisseaux aux cours rapides et des cultures brillantes. Quel coup d'œil, quel gouffre pour les fortunes, quel spectacle propre à subjuguer les cœurs des humains. Ajoutons des pavillons et des belvédères d'une construction splendide et bien alignée. Ce sont des demeures magnifiques, de superbes salons de réunion qui témoignent de la hauteur de vue de princes illustres. L'étendue du fleuve, depuis Waraksar, je vais en parler, jusqu'aux alentours de Boukhara, est de 6 jours, au milieu d'un enchevêtrement de villages, de vergers et de petits canaux. C'est déjà le paysage actuel. Là, c'est vraiment... Imho Kral enregistre, à propos de Samarcande, une notion qui est bien connue de nos historiens occidentaux, c'est la notion de monde plein. Voilà. On voit qu'ici, ce qu'il décrit, un endroit où toutes les parcelles sont mises en culture, tout le potentiel agricole possible a été mis en valeur, c'est un monde plein. Alors, Waraksar, l'étendue du fleuve depuis Waraksar. Qu'est-ce que Waraksar ? Voilà. J'emprunte cette carte à Étienne de la Vessière. Voilà, Samarcande est donc ici. Voilà, elle est ici. Waraksar est là. C'est à la frontière exacte du Tadjikistan. C'est le barrage d'où, encore aujourd'hui, divergent les canaux qui alimentent la rive sud et la rive nord. Étymologiquement, le mot signifie « la tête de la répartition ». Donc, la rivière du Zerafshan, qui est, par sa longueur, le troisième plus long fleuve d'Asie centrale, après la Amou-Daria et le Sir-Daria, prend sa source dans la zone pré-pamirienne et s'écoule dans sa vallée, et finalement il n'atteint pas la Moudaria, il se perd dans les sables au sud-ouest de l'oasis de Boukhara. Cette carte d'Étienne de Lavessière, montre l'ensemble des zones irriguées, disons au moment, en gros, de la conquête islamique, pour les quatre oasis sogdiennes. Enfin, il y en a une qui n'est pas sur la carte, c'est Tchatch, l'oasis de Tachkent, qui se trouve un peu hors champ ici. Les quatre grandes oasis, c'est Samarkand, Boukhara et Kesh et Narchab, la vallée du Kashkadaria au sud. Alors, actuellement, pour l'oasis de Samarkand, on compte 3500 km² en culture irriguée. Voilà, Vararsar Saparissi, et voilà la culture irriguée, donc les branches du canal, et une branche qui continue par là, et on va voir que ça a déjà quelque peu existé auparavant. Tout ça nous amène à peu près 3500 km². Actuellement, et on pense qu'en gros, cette situation était acquise à l'époque de la conquête islamique. Pour la population, ville et campagne ajoutées, des estimations proposées par Étienne de Lavessière vont, à partir de divers critères que je ne détaillerai pas, ça nous indiquerait entre 1,3 et 2 millions au moment de la conquête islamique, en combinant Samarkand et Boukhara. Donc, on voit quand même que c'est énorme. C'est énorme. Et en fait, la disproportion démographique par rapport à la Chine du Nord n'était pas si forte que cela. Et c'est un chiffre à prendre en compte si on veut comprendre l'importance sociale et économique qu'ont eu les immigrés des oasis sogdiennes dans la Chine des Tang. Alors, comment est-on arrivé à une telle densité ? Alors, en l'absence de descriptions textuelles, oui, on a des descriptions de ces canaux dans Imhotpal, même détaillées, il indique les différentes branches, par où elles passent, mais ça c'est du Xe siècle, et auparavant, on n'a pas de description. Donc l'histoire la plus ancienne de ce réseau ne peut se baser que sur la documentation archéologique. Alors, à partir des archéologues soviétiques, dès le moment où ils se sont intéressés à la région, à partir des années 30, ils se sont tout de suite intéressés à aller voir dans la campagne quelles étaient les technologies d'alimentation en eau, ils ont proposé des modèles pour l'émergence de Samarkand, des modèles avec des conclusions d'ailleurs qui divergeaient entre eux. Alors, récemment, on a affaire à trois approches avec des méthodologies différentes, mais des conclusions en gros convergentes, mais pas complètement. Il s'agit des trois missions qui ont travaillé d'ailleurs en contact étroit, en échangeant beaucoup d'informations. Alors voilà, donc le rouge indique les parcelles mises en eau. Alors, vous voyez, Samarkand, là c'est Chopanata, oui, donc, une colline qui n'est pas habitée parce qu'elle ne peut pas être alimentée en eau. Et plus bas, le site historique, le plateau de Samarkand, Afrasiab, qui lui peut être alimenté en eau. Et c'est le cœur de la question, alimenté depuis ici, depuis Vararsar. La ville actuelle est plus au sud, hein, vous voyez. La densité agricole. Et cette photo nous montre l'une des branches dérivées du Grand Canal qui finit par aboutir juste à l'est du plateau d'Afrasiab qui est ici. Cette branche ne montait pas sur le plateau, elle alimentait une douve. Mais on voit que c'est pas un cours naturel, parce que vous voyez ici des talus qui sont naturels, des terrasses qui n'ont pu être franchies par ce cours d'eau qu'on appelle le Siab, l'eau noire, n'ont pu être franchies qu'en étant entaillées. Donc c'est la preuve que là on a affaire à un pays, à une hydrographie humanisée. Bien. Alors, les missions. On a eu donc celle qui était dans le cadre de notre mission de Samarcande, la Mahfouz Sogdiane, mission archéologique franco-ouzbek de Sogdiane, qui a donc accueilli une mission française par le géographe Pierre Gentel. Cette mission a travaillé assez longtemps, de 1992 à 2005. Un peu plus tard, et continuant également plus tard, a travaillé une mission italienne, dirigée principalement par Simone Mantellini et Bernardo Rondelli, mission de l'Institut italien pour l'ISMEO, Institut italien pour l'Ancien Orient, et aussi Université de Bologne. Et puis, il y a eu une mission russe qui vraiment repris la tradition des explorations soviétiques, une mission du Musée des Peuples d'Orient à Moscou, dirigée par Olga Inevatkina et Zamira Galieva. Elle a commencé avant nous et elle a duré longtemps. Et ces deux collègues participaient d'ailleurs au colloque que nous avons organisé ici en 2005, ainsi que d'ailleurs Simone Mantellini. Pierre Gentel était déjà décédé et le colloque en fait a été organisé en sa mémoire. Toutes les trois missions ont publié des articles avec leurs principaux résultats dans ce recueil qui constitue encore actuellement, disons sous forme ramassée, ce qu'il y a de plus complet, de plus synthétique sur ce que nous avons fait à Samarcande depuis maintenant 30 ans. Hein, oasis, frontières et carrefour. Chaque mission, nous avons tenu, ce volume a été dirigé par Claude Rapin, nous avons tenu à ce que chaque mission présente ses conclusions qui pouvaient être divergentes les uns avec les autres. Alors, je vais successivement présenter les résultats de chacune des missions. Je commence par Pierre Gentel. Qui nous a quittés en 2010, que j'avais connu en Afghanistan il y a très longtemps, puisque participait avec Jean-Claude Gardin et Bertil Lyonnais à la prospection de la Bactriane orientale, qui a été une mission complète, très pionnière sur la méthodologie d'étude des anciens canaux. Et il est donc prévu nous travaillons activement sur la publication du texte et de la documentation qui nous avait laissé, qu'on a mis au point, Samarcande et l'eau, voilà. Et en fait, nous pensons publier ce travail avec les communications du colloque que nous avions organisé en 2015 en son hommage. Alors, Pierre Gentel était un représentant de l'école géographique française. C'est une chose très précise, mais une école qui avait ses méthodes, qu'on peut dire aujourd'hui vieillies, mais en réalité, c'était redoutablement efficace. Il avait une approche qu'on va dire traditionnelle et qu'il assumait complètement. Il travaillait sur les sources historiques, les cartes récentes et anciennes, des photos aériennes, un peu les vues satellites, mais dans une moindre mesure, et surtout de longues prospections au sol, une prise en compte des données des fouilles, les prospections au sol permettant d'étudier à la fois la morphologie des sites telle qu'elle se voit aujourd'hui et de ramasser de la céramique qui permet de dater approximativement les périodes d'occupation de ces sites. C'est la méthode qu'a utilisée la mission Gardin-Gentel en Bactriane orientale. Alors, ce qu'il ne faisait pas, et il l'assumait, il ne faisait pas de télédétection. Le remote sensing, qui donne aujourd'hui des résultats vraiment spectaculaires. Ça commençait à apparaître à cette époque. Lui, ça ne l'intéressait pas. Il ne faisait pas de télédétection. Il ne faisait pas de SIG, système d'information géographique. Je crois qu'il aimait vraiment pas ça. Et puis, très peu les analyses physico-chimiques. Oui, quand même, il en utilisait certains résultats parce que les Italiens qui travaillaient en même temps que nous ont fourni des résultats d'analyse physico-chimique que, bien entendu, il a pris en compte. Alors, il a pas plus qu'aucune des missions, il n'a eu le temps, ni l'intérêt d'ailleurs vraiment, de s'occuper de la rive nord du Zérafchan avec ce système. L'idée qui a été assez largement partagée, c'est que, en fait, ce que nous apprenait la rive sud sur l'histoire de l'irrigation, on pouvait le projeter sur la rive nord, tout simplement parce que l'eau était dérivée du même point et que donc on pouvait accepter l'idée qu'il s'agissait d'un système cohérent qui s'était déployé des deux côtés. Il n'a pas non plus cherché à faire une étude générale du peuplement dans la zone, contrairement à ce qu'avait fait la prospection bactrienne. Son travail, et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'on l'avait invité sur la fouille, son travail a visé à répondre à une question ancienne, dont évidemment la réponse détermine toute l'étude régionale. Quand et par quel processus Samarcande a-t-elle été alimentée en eau ? Je vais là raconter une petite anecdote. On était, c'était les toutes premières années où on était sur la fouille, et nous recueillions auprès de l'équipe de fouille locale une sorte de culture orale. Toute mission archéologique a une culture orale de travaux qui avaient été faits sur l'alimentation en eau de Samarcande. Il y avait toutes sortes de légendes qui circulaient. On nous disait, par exemple, que des gens avaient vu, de leurs yeux vus, des systèmes de roues à aubes qui montaient l'eau d'en bas, là, la rivière du Siam, jusqu'au sommet du plateau, 30 mètres. Paul Bernard, qui avait beaucoup de bon sens, nous dit à ce moment-là: écoutez, on va faire venir Pierre Gentel. En 10 minutes, il aura eu raison de tout ça. Bon, et c'est ce qu'on a fait. Alors, les termes du problème. Tel qu'il se pose. Hein, voilà. Excusez-moi. Voilà. C'est un problème de plomberie. Très simple à poser. La ville historique de Samarcande, Afrasiab, est à 3,5 km au sud du fleuve naturel, le Zérafchan. Et elle le domine de 30 mètres. Donc, comment est-ce qu'elle peut s'alimenter en eau ? On pensera des puits. Oui, il y a quelques puits sur le site, mais pas beaucoup, et d'une profondeur, ils sont très profonds, la nappe phréatique est très profonde, c'est pas avec ce système que la ville pouvait s'alimenter en eau. Alors, il y a également des sources autour, notamment une très puissante source en contrebas, au mausolée du prophète Daniel, comme c'est au côté nord-est, il est absolument pas question de faire monter cette eau par une dérivation. Ça ne pouvait... Oui, ça montait, mais ça montait dans des outres et des jarres. Bien. C'est pas avec ça qu'on fait vivre la ville. Alors, par le simple jeu... c'est là où sont les courbes de niveau. Le simple jeu des courbes de niveau indique que si on veut arriver là, il faut partir de là. Parce que le canal doit impérativement, ici c'est la basse terrasse du fleuve, le canal doit impérativement monter sur la deuxième terrasse, ce qu'il ne peut faire qu'en la suivant pendant un certain temps jusqu'au moment où les altitudes se rejoignent, les pentes se rejoignent, là le canal monte et est dérivé jusqu'à la ville. Bien. Et donc la prise d'eau, elle est à 40 km en amont de la ville. Alors, partant de ce constat, il y a deux solutions chronologiques possibles. Première solution, il y a toujours eu un canal. Bon, on sait par la céramique que maintenant, assez clairement, que Samarcande est fondée par le pouvoir achéménide, on va dire, bon, ça tourne autour de Darius Ier, ce serait vers 500 avant Jésus-Christ. Et la ville, dès le début, on le sait aussi, occupe la totalité du plateau, c'est-à-dire 220 hectares. Et Pierre Gentel a été persuadé jusqu'à la fin que si on a fondé cette ville à l'endroit où elle est, c'est qu'on savait, il y avait un projet de l'alimenter en eau, et même une réalité de l'alimentation en eau depuis 40 kilomètres, l'un ne pouvant pas aller sans l'autre. On ne va pas faire un effort pour fortifier un plateau de 220 hectares à 30 mètres de haut et installer au moins une grande ville de garnison sans avoir en tête un schéma d'alimentation en eau. Ben, bien. Alors, il y a une autre doctrine qui est toujours d'ailleurs défendue par certains, qui est que ça n'a pas fonctionné quand même, ça n'a pas été opérationnel depuis le début, et pendant une période initiale, enfin certains disent en gros jusque dans les premiers siècles de notre ère, l'alimentation en eau venait essentiellement non pas du canal dérivé du fleuve, mais de ruisseaux de Piémont, qu'on appelle les sailles, et que, d'une manière ou d'une autre, voilà, c'était ce qui, principalement, alimentait la ville. Les sailles, il faut quand même savoir que ce sont des ruisseaux intermittents, hein, ça coule au printemps, ça coule au moment des pluies du printemps, traditionnellement, on capte dans des bassins, c'est utilisé pour la mise en valeur agricole du Piémont ici. Et puis, il y avait également des sources en bas du plateau. Alors la question, c'est, oui, d'accord, mais est-ce que c'est avec ça? Est-ce que c'est avec ça? Certains ont pensé que en collectant l'eau des ruisseaux, on arriverait suffisamment à obtenir une masse d'eau suffisante pour la faire entrer dans la ville. Alors, voilà la réponse. C'est un schéma qu'ont fait donc Pierre Gentel et Jean-François Coulet. Et il suffit de regarder, ce sont les altitudes, voilà, le canal principal qui entre dans Samarcande qui diverge. Les altitudes, bon, c'est très simple, hein. Il n'y a qu'un schéma possible, c'est que ça vient d'ici. Le reste est totalement impensable. On passe, voilà, les altitudes peu à peu diminuent, on entre dans la ville à 710 mètres, on aboutit à une altitude très peu inférieure dans la partie nord de la ville, 703 mètres. Alors, on s'était beaucoup excité sur les sources abondantes de Navodan qui sont ici, et bon, qui ont effectivement eu un rôle historique à partir de la ville de Tamerlan, parce que ce sont ces sources qui ont alimenté la citadelle de Tamerlan et les bains de d'Ouloukbeg, etc. Oui, très bien, mais la source de Navodan, simplement en termes d'altimétrie, n'a jamais pu alimenter autre chose que la Douve au bas du rempart. Comme le ruisseau du Siab que j'ai montré tout à l'heure, ça ne pouvait pas monter, ce n'était pas possible. L'alimentation, les ruisseaux de Piémont, là, ont pu être parfois un appoint, un complément. Effectivement, ça pouvait gonfler, le canal, mais d'une manière qui était à la fois intermittente et insuffisante. Voilà le barrage de Wararsar tel qu'il se présentait au moment, c'est dans le livre de Lord Curzon, Russian Central Asia, photographié vers 1890, vous voyez la technologie. Là c'est au moment où les eaux sont relativement à sec, ce sont des faisceaux de branchages, enfin oui, de troncs d'arbres, oui, de branches, qui sont disposées en triangle qu'ensuite on remplit, on bourre avec des pierres. C'est une technologie très simple, mais qui suffit à faire un barrage et du coup à faire monter l'eau en amont et la faire diverger sur les côtés par des canaux. Le fait que alors, la mémoire de la ville, la mémoire légendaire de la ville, avait conservé cette notion d'un lien organique et direct entre la construction de la ville et la construction du Grand Canal. Car que nous raconte la chronique locale qui a été mise par écrit à partir du XIe siècle ? On nous dit ceci. Comment est-ce qu'on a fondé Samarcande ? Un jour, une panthère est sortie de la forêt, de la jungle de Waraksar, c'est-à-dire la zone à 40 km, la zone du début du canal. La panthère est sortie, on l'a suivie, elle s'est arrêtée sur le plateau. Et donc, la panthère a indiqué par où il fallait faire passer l'eau. Alors, c'est une légende, ça rappelle tout à fait la légende des origines de Rome. La louve qui va s'arrêter sur le site pour montrer où il faut le fonder. C'est pas indifférent que l'animal ici soit une panthère, parce que la panthère, comme les grands fauves, est liée au mythe sur l'adduction d'eau, la grande déesse Nana, grande déesse de la fertilité en Sogdiane, est toujours associée à un lion. Donc il y a une mémoire historique de du lien entre le canal et la ville. Alors, vous me direz, ils n'avaient pas... Bon, très bien, ils ont pu calculer, ils savaient que... Avec une pente légère donnée au canal, on arrivait à amener l'eau de 40 km en amont. Mais comment est-ce qu'ils mesuraient les altitudes ? Ils n'avaient pas d'altimètre, ils n'avaient pas des théodolites. Alors, on sait qu'il existait des procédés empiriques de calcul qui permettaient de calculer où l'eau pouvait passer avec une pente légère. Il y avait deux sortes de procédés que nous avons vus encore en usage en Afghanistan. Un procédé, c'est tout simplement de tracer une rigole. On trace une succession de petites rigoles et on voit si l'eau coule. Si elle ne coule pas, c'est que la pente est trop forte. Si elle coule trop vite, la pente n'est pas suffisante. Si ça coule trop vite, c'est qu'elle est excessive. On trouve, grâce aux petites rigoles, le bon point d'équilibre. Un autre procédé qu'on a vu en Afghanistan, ça paraît incroyable à raconter, mais ça a été vérifié. Quand on fait passer un canal sur une pente raide, pour déterminer à quel endroit exactement de la pente on doit le creuser. On rassemble un nombre assez important de gens et quelqu'un se met sur la pente, plusieurs personnes se mettent sur la pente et tenant un repère quelconque et les gens sont rassemblés dans la plaine en contrebas devant. Et le témoignage convergent de 20 perdus permet d'éviter le risque d'erreur. Au moment où ils sont tous d'accord sur l'endroit où on doit déposer le repère, c'est qu'on a le bon repère. Ils arrivent à déterminer l'horizontalité. Alors, une personne seule ne pourra pas, mais la convergence de nombreux témoignages le permettra. Donc, il y avait des procédés empiriques qui permettaient de mesurer l'horizontalité. Alors, bien sûr, pour le débit, c'est très connu. C'est le procédé de la clepsydre, clepsydre très primitive. C'est un pot avec un petit trou, ça permet de déterminer un certain temps d'écoulement. Voilà. Quand le pot est rempli et qu'il tombe, c'est que la quantité d'eau que doit toucher le fermier qui est au bout du petit canal est épuisée, ou alors on compte par unité. Bon, disons, ça met un quart d'heure à se remplir, ben, on sait exactement la durée horaire de l'écoulement de l'eau, et quand on estime que le fermier au bout du ruisseau est suffisamment servi, on passe au suivant. Voilà. Alors, à l'intérieur de la ville, voilà une photo aérienne, celle-là Gentel l'utilisait, hein. Voilà l'emplacement, l'endroit. Évidemment, le canal d'Amnédo, il n'existe plus puisque le site historique de Samarcande, à Frassillab, le plateau, a été abandonné à partir de la conquête de Gengis Khan. Mais on voit très bien, vous voyez, les anciens, on voit que il y avait une entrée unique, autour il y avait des douves, et cette entrée, ici à l'entrée unique, le canal se divisait en trois. Ici, ça s'est occupé actuellement, emprunté par une route, le canal central qui existe encore très bien, le canal à l'est, et ici ce sont des lignes de remparts intérieures, et on voit très bien le canal qui passe là, et ici c'est la citadelle, ici c'est la mosquée, et au pied de ces monuments, on a trouvé les arrivées. Ça avait été déjà très bien compris lors du premier travail topographique fait par les Russes en 1885, très peu après la conquête. Ils avaient fait on n'a jamais fait mieux que ce relevé des courbes de niveau. Nous, on avait juste rajouté des lignes explicatives, remparts, canals, etc. Mais ils avaient très bien tout vu. Et alors, j'attire votre attention sur tous ces trous-là qui défoncent la ville. Ce sont des zones d'effondrement du leus du plateau qui créent des dépressions, lesquelles se rapprochent de la nappe phréatique, donc sont assez fertiles, et c'était occupé soit par des jardins, qui sont décrits par les auteurs arabes, soit ça pouvait servir de bassin de stockage à partir de l'eau qui rentrait dans la ville. Alors, tout ça est très bien décrit par Imre Okral. Les eaux pénètrent en ville par un conduit en partie en plomb et surélevé. Et on a construit à cet effet une digue assez haute au-dessus du sol, qui en certains endroits forme une véritable colline de pierre au centre du marché. Je reviens sur la photo. Oui, voilà. Le marché, il est toujours là. Voilà, près de la mosquée Bibi Khanoum. Donc, la digue de pierre était ici avec son canal de plomb. Le lit de ce canal est entièrement en plomb. Les environs de la ville sont en contrebas parce qu'on a utilisé la terre pour la construction de la muraille, de sorte qu'un puissant fossé s'est formé. Un aqueduc, oui, on peut appeler ça un aqueduc, bien qu'il n'y ait pas eu d'arche, mais un talus continu. Un aqueduc a donc été nécessaire pour amener l'eau à travers ce fossé, à l'intérieur de la ville. Et il est vraiment bien renseigné. Il dit, c'est un canal antique antérieur à l'islam. Et il dit même ailleurs, qui est chargé de l'entretien du canal ? La communauté zoroastrienne. Parce que vis-à-vis de l'eau, ils ont plus d'hygiène que les musulmans. Et donc, il y a des interdits rituels très précis dans le zoroastrisme qui subissent très bien le test de l'hygiène contemporaine, qui font que un canal entretenu par les Zoroastriens, c'était plus propre que si on les confiait à d'autres. Donc, en fonction de ce service, en raison de ce service qu'ils rendaient à la ville, ils ne payaient pas l'impôt, la jizya, l'impôt sur les infidèles. Un jour, On se promenait avec Pierre Gentel, je crois que c'était... c'est l'endroit où... c'était ici, enfin un endroit où un ruisseau dérivé du canal alimentait ici la Douve. Il y avait un pont, un petit pont, et on voit, c'est écrit sur l'écriteau, « Poulea bimoran », le pont de l'eau des mages. Ça voulait dire quoi ? Moran, c'est le terme générique à l'époque musulmane pour désigner les Zoroastriens, les mages. Le pont de l'eau des mages, ça veut dire que ce canal, le nom actuel du pont, enregistrait le souvenir de l'époque où c'était les Zoroastriens qui maintenaient le système d'adduction d'eau. On était très fiers le jour où on a compris ça. C'est la seule restitution 3D qui ait jamais été faite de la ville. Nous, on n'a jamais encore vraiment osé parce que on n'est pas... Bon, évidemment, maintenant, l'intelligence artificielle va venir au secours de tout ça, mais à l'époque où on travaillait de manière artisanale, on était tout simplement... On pensait qu'on n'avait pas tout à fait les données permettant de faire une restitution 3D. Mais à l'époque soviétique, ils l'ont faite. Dans cet ouvrage grand public, bon, c'est pas très très réaliste. Enfin, les remparts sont très exagérés, mais enfin, malgré tout, dans l'ensemble, c'est assez fidèle. Vous voyez, les douves alimentées en eau et l'alimentation à l'intérieur de la ville qui ne peut se faire qu'à une altitude plus haute, le canal de plomb qui rentre dans la ville et se divise. Nous avons fait des sondages au moment où le canal à l'intérieur de la ville aboutit à la zone de la mosquée. On n'a pas vraiment trouvé le branchement pour la citadelle elle-même. On sait qu'il existait, mais ça a dû être détruit. On n'a pas trouvé le parcours. Par contre, pour la mosquée, on l'a trouvée. Et voilà, ici, c'est plus en plomb. Ce sont des tuyaux en terre cuite. Et voilà ici l'arrivée donc à la mosquée et à la citadelle. Et ici, il est écrit « Brèche de Jean Giscane ». Alors, ça mérite un petit commentaire. Quand Jean Giscane a pris la ville, en 1220, les derniers défenseurs se sont réfugiés dans la citadelle, qui était là et un peu à l'est, et qui était alimentée en eau, bien que nous n'ayons pas trouvé le branchement. Il s'est dit dans la chronique de Joe Wainey, pour les obliger à se rendre, il a coupé le canal. Alors, la brèche se voit toujours. Et vous me direz, non, il y a une route qui passe, donc c'est la route qui a fait la brèche. Non, parce qu'elle figure sur les plans antérieurs à la route. La route a pris la brèche, c'est pas la brèche qui a été créée par la route. Donc, c'est là où Jean Giscane a coupé l'adduction d'eau. Le creusement du canal... j'ai parlé tout à l'heure des sailles, les ruisseaux de Piémont, qui n'ont jamais suffi en fait à alimenter à eux seuls le canal, mais malgré tout c'était un appoint. Et voilà une photo très démonstrative. Vous avez le grand canal d'Argom, qui vient donc de 40 km, et voilà un de ces ruisseaux de Piémont au moment où il est en eau, qui rentre dedans. Et vous voyez, l'eau n'a pas la même couleur. Ici, ce sont des alluvions qui contiennent des boues ferrugineuses, ça vient du Piémont, c'est pas la même couleur que ce qui coule du Grand Canal. Voilà une coupe stratigraphique qu'a mené Pierre Gentel et Olga Ignevatkina au milieu du canal central à l'intérieur de la ville. Alors vous voyez, distingué période par période, bon, on a daté par la céramique, vous voyez quand même que c'est extrêmement compliqué. Ça n'a pas arrêté, il y a eu des recreusements, pas toujours exactement au même endroit, parfois c'est maçonné, il y a des murs qui forment les brèches. Alors ça c'est une erreur, pourquoi est-ce qu'on a mis mur? En fait ce sont des puisards, c'est pas des puits, c'est des puits pour balancer les eaux usées. Et ça vient défoncer un peu partout la coupe, mais enfin, bon, ici c'est un vrai mur, hein. C'était un mur de berge de canal. Et alors, la couche, le niveau le plus ancien que nous avons atteint, c'est ça, 101. C'est vraiment ici qu'on a trouvé le niveau le plus ancien, mais que nous avons atteint. Mais en fait, tel que ça se présentait, c'était déjà un recreusement. Donc nous n'avons pas atteint, il est impossible d'atteindre, le tout premier état du canal. Et évidemment, ça pose un problème pour la datation générale. Ce qu'on a ici, dans ces couches-là, étaient en fait des rejets de curage du canal qui devait se trouver ici, et on y trouve une céramique assez mélangée de l'Antiquité, mais contenant tout de même des tessons d'époque achéménide. Donc c'est un indice d'une possibilité que le canal ait déjà existé à l'époque achéménide. Alors là, bon, il y a eu tout de même un bémol, parce que les collègues italiens ont mené des analyses pédologiques sur le niveau le plus ancien, et ce qu'ils ont trouvé, c'est pas le sable fin venant des montagnes du canal principal. C'est un sable granuleux, rougeâtre, typique des ruisseaux intermittents qui coulent de la montagne. Quand ça coule de le grand canal, ça coule gris, bleu. Et quand ça coule de la montagne, ça coule rouge. Donc il est évident qu'à certains moments, l'adduction d'eau a incorporé des apports qui venaient de ces ruisseaux de montagne. Mais encore une fois, c'était probablement à certains moments seulement, et ça n'a jamais suffi à faire fonctionner tout le système. Alors, les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, c'est que la vraisemblance, c'est que, comme l'avait toujours pensé Gentel, le système a été conçu dès la fondation de la ville. Mais peut-être il n'a atteint sa rentabilité que plus tard, à la période grecque. À certains moments, l'écoulement du canal tiré du fleuve a pu être faible, donc entraînant une plus forte proportion des apports boueux des torrents de Piémont. Mais, encore une fois, ils n'ont jamais suffi à faire fonctionner la totalité du système. On voit par exemple à la fin de la période, juste avant les Mongols, on voit qu'ils sont dans une période où ils ont du mal à faire venir l'eau, parce que on s'aperçoit que dans la partie nord de la ville où nous avons travaillé, le canal est très enfoncé et ça coule pas toujours. Il y a des moments où la partie nord de la ville laisse place à des cimetières. Ça, c'est pas très bon signe. Ça veut dire que l'adduction d'eau ne marche pas très bien. Bon. Alors, je vais en venir maintenant au travail qu'ont fait les autres missions, mission russe et mission italienne. Alors, contrairement à nous, eux, ils ont d'emblée travaillé dans une vision régionale très large. Pas la rive droite, mais vraiment toute la rive gauche, depuis Ouarsar, le Grand Canal, et en allant même assez loin, à l'ouest de Samarcande. Alors, évidemment, ça complète bien ce qu'on a fait, c'est une vision régionale large, mais en même temps, par rapport à ce que nous faisions, nous, il y a eu un moindre effort de validation des cas. Ils ont vraiment procédé par grand schéma, avec très peu d'observations pointues. Alors les Italiens, ont utilisé massivement. C'est un article paru en 1815. En 2015, c'est ce qu'ils ont fait actuellement de plus au point. Faut dire, ils ont évolué dans leur doctrine. Ils étaient partis de l'idée qu'il n'y avait rien avant les premiers siècles de notre ère, et petit à petit, ils en sont venus à reculer, donc à se dans le temps et à se rapprocher de ce que nous pensions nous. Ils ont proposé. Alors eux, ils ont beaucoup travaillé sur les données satellites, les analyses géophysiques, ce que Gentel ne faisait pas. En revanche, il y avait très peu de validation au sol, de ramassage de tessons, etc. Voilà ce qu'ils ont proposé à partir des années 2000. Donc, les établissements les plus anciens, de l'époque achéménide, et puis plus tard, donc, leur idée, c'est qu'en fait, ça se densifiait plutôt à partir du 5e, 6e siècle, avec le creusement du grand canal d'Argom. Bon, celui-là, c'est d'époque islamique, c'est plus tard. Ça se serait densifié à ce moment-là. Et à l'époque achéménide, en fait, on se trouverait dans une logique de piémont. C'est-à-dire qu'à part le site d'Afrasiab, les établissements répertoriés sont alimentés par les ruisseaux qui descendent de la montagne et ne s'expliquent pas par le creusement du canal qui, à cette époque, n'aurait pas existé. Bon, ils ont évolué depuis dans leurs idées. Voilà la distribution chronologique des sites. L'apogée se situe à l'époque d'Itzogdienne, très peu. Peu avant les siècles juste avant la conquête islamique, à la période islamique, il y a une déprise assez considérable des terroirs agricoles. Donc selon eux, les sites présumés achéménides étaient en piémont et indépendant du canal. Bertil Lyonnais a beaucoup critiqué cette méthodologie au moment de notre colloque en 2015, en comparant avec les conditions dans lesquelles nous avions travaillé en Bactriane dans les années 70. Selon elle, la fiabilité chronologique des prospections de surface, donc avec des datations reposant sur les collectes de tessons, etc., est beaucoup plus faible dans ces régions qu'elle ne l'est dans les régions où nous avons travaillé en Afghanistan. Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'alluvionnement et beaucoup de réoccupations agricoles modernes. D'où un énorme taux d'une considérable sous-estimation des sites plus anciens, dont beaucoup ont pu être détruits ou se trouver profondément enfouis dans l'alluvionnement, ce qui expliquerait que les sites les plus anciens se trouvent dans la zone de piémont, moins touchés par les remaniements agricoles et l'alluvionnement, et qu'il y en avait certainement, selon elle, beaucoup d'autres plus bas, mais on les a plus. Bien. Alors, maintenant, le travail mené par l'équipe russe, alors c'est encore différent. Eux, ils ont travaillé dans la zone au sud-ouest de Samarcande, ici. Les Italiens avaient travaillé ici, dans la zone au sud-est, et eux, ils ont travaillé dans la zone au sud-ouest. Alors, eux, ils sont arrivés à des conclusions qui en fait rejoignent les nôtres, sur l'ancienneté du système. Cette zone qu'on appelle le Past d'Argom, elle a l'avantage, elle se présente dans des conditions physiques qui nous rapprochent des conditions de travail que nous avons eues en Afghanistan. C'est-à-dire que cette zone a été largement désertée à la période islamique. Les canaux ont été refaits plus au nord. Donc on se trouve là, dans certains endroits, bon maintenant tout ça est en train d'être remis en culture, mais on se trouve devant un paysage fossile, avec, vous voyez, une branche de canal ici, mais ça on ne le voit jamais plus à l'est de Samarcande. Mais là on le voit, et c'est ce qu'on voyait en Afghanistan, des canaux fossiles. Voilà. Et alors, ils ont beaucoup utilisé donc les photos aériennes où toutes sortes de sites se voient ou pouvaient se voir dans les années 60, parce qu'on a eu des photos plus anciennes avant les grands travaux de l'époque brejnevienne. Évidemment, ça permettait beaucoup plus de sites étaient à l'époque observés. Alors, leur méthodologie pour dater, bon, elle a été quand même assez schématique, je dirais. En gros, ils ont assez peu procédé à des sondages, etc. Beaucoup à des déductions morphologiques. En gros, je schématise, mais à peine. Si c'est rond, c'est achéménide. Si c'est carré, c'est grec. Voilà. Voilà. Partant de là, évidemment, ils ont esquissé une chronologie des sites. Ce qu'ils ont montré, en tout cas, même si les datations absolues sont un peu problématiques, ils ont montré que dans cette zone, voilà le canal d'Argom, il y avait des canaux dérivés, hein, un ancien qui s'appelle Old Insight, ça veut dire le ruisseau d'or, et puis un plus récent, qui est en fait médiéval, et Eskiangor, et qui a continué, et l'idée était probablement d'arriver très très loin au sud-ouest, jusqu'à l'oasis de Kesh, ce qui finalement s'est fait à l'époque soviétique. Ce canal soviétique, le canal Angor actuel, pourrait être en fait l'accomplissement d'un projet qui existait par exemple à l'époque timouride et qui n'aurait pas été mené à bien. Donc, dans cette méthodologie, on constate que les sites supposés achéménides, c'est-à-dire les sites ronds, il y en a quatre. Hein. Je les avais pourtant vus avant. Ces sites sont très peu nombreux. Et deux d'entre eux sont en fait plus au sud que les canaux, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas été alimentés par ce système de canaux. À l'époque hellénistique, ça change. Enfin, à l'époque qu'ils considèrent hellénistique, les forteresses qui étaient rondes deviennent carrées, les Grecs avaient l'esprit géométrique. À l'époque hellénistique, on voit beaucoup plus de sites qui apparaissent, et là, c'est dans toute la zone. C'est-à-dire qu'à cette époque, on peut assez raisonnablement supposer que ce système de canaux dérivés existe déjà. Bien. C'est assez convaincant, ça rejoint assez ce que nous avions pensé. Il y a quand même un bémol qui me gêne un peu, c'est qu'entre-temps, on a publié la carte des monnaies ramassées sur les sites. Enfin, c'est notre collègue Anvar Atakhodjaïev qui a réussi à capter la collaboration de prospecteurs autoproclamés qui se promènent avec des détecteurs de métaux. Vous savez, c'est le fléau actuel des sites archéologiques en France. Il a pu, comme cela, déterminer la provenance. Et alors, il s'agit des monnaies de l'époque grecque ou un peu après. Et ce qui me gêne un peu quand même, c'est que la plupart des points de collecte se situent au sud de ces canaux, c'est-à-dire en zone plutôt de piémont. Bien. Disons, voilà, on arriverait, pour conclure, on arriverait en fait à peu près à la même conclusion prudente qu'avec l'adduction d'eau en ville. Le système a sans doute été conçu dès la fondation de la ville, vers moins 500, mais il n'aurait atteint sa rentabilité qu'à l'époque des Grecs ou un peu après eux. Il faut savoir qu'ici, les Grecs s'arrêtent tôt. Hein. La domination grecque, à en juger par les monnaies, elle est terminée vers 240 avant Jésus-Christ. Malgré tout, bon, il n'en reste pas moins. Et j'en reviens à mon point de départ, les Grecs ont connu le nom du Grand Canal. Ils ont connu le nom du Grand Canal. S'ils ont connu le nom du Grand Canal, c'est qu'ils ont connu sa réalité et qu'ils ont transmis à la science géographique antique son nom authentique d'Argomanès qui existe encore aujourd'hui. Et voilà. J'en ai terminé sur ces incertitudes. C'est pas les seules que nous avons, c'est pas les seules incertitudes que vous avez eu l'occasion d'entendre pendant mes 13 années d'enseignement. Et je termine sur celle-là. Alors, pour ceci est mon dernier cours. Je ne disparais pas pour autant totalement. C'est-à-dire que ma leçon de clôture aura lieu plus tard. Peut-être en octobre, enfin, vous serez informés par le site. Les leçons de clôture, elles peuvent avoir lieu juste à la fin de l'enseignement. Dans mon cas, j'ai préféré laisser un petit battement, donc ça aura lieu plutôt à l'automne. Par ailleurs, le mois prochain, en mai, j'ai donc invité notre collègue de Los Angeles, le professeur Touraj Daryahi, qui va nous faire 4 conférences en anglais sur... la géographie symbolique, administrative, politique de l'époque sassanide. Je vous invite à venir écouter ces conférences qui, contrairement à mes cours, se termineront par des discussions, etc., auxquelles éventuellement peut-être je participerai. C'est sur l'affiche et c'est sur le site. Hein. Et ensuite, la même période, au mois de mai, en collaboration avec le professeur Daryahi, je mène un séminaire qui de 4 séances sur le culte de Mithra, Mithra entre l'Iran et l'Empire romain. Alors le côté iranien, ce sera plutôt ce qu'on va voir au mois de mai. Et début décembre, il y aura la suite de ce séminaire avec le culte de Mithra, plutôt vu du point de vue romain. L'espoir étant qu'à la fin, on arrive à une vision relativement unitaire, mais on n'en prend pas le chemin, puisque le dialogue actuellement est très limité entre spécialistes du mithraïsme iranien et du mithraïsme romain. Mais enfin, ça vaudra la peine d'essayer. Voilà, je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.